Voilà, nous y sommes. C'est ce que j'ai pensé en lisant notre texte du jour dans l'évangile de Marc. Voilà, nous y sommes. Un temps de catastrophe avec beaucoup de détresse et de souffrance sont devant nous. C'est la réalité que nous affrontons désormais. Parce que, oh, même si nous refusons de le voir, la catastrophe est là. Comme ses prédécesseurs, la COP26 n'y changera rien. Elle n'a pas réussi, elle non plus, à enrayer le processus. Pas plus que les déclarations enflammées des scientifiques, des jeunes, des politiques, ou même des églises. Notre dernier synode national ajoutant sa voix à un concert de discours aussi lyrique qu'inutiles, en tout cas aussi inefficaces les uns que les autres. Rien, mais absolument rien, ne semble en mesure de dévier le cours des choses. Le train est lancé à pleine vitesse et il va s'écraser en bas de la falaise. Mais cette réalité dans laquelle nous sommes entrés, déjà, nous n'y croyons pas, ou pas vraiment. Nous savons intellectuellement, parce que nous lisons les journaux quand même, enfin, nous savons qu'elle est là, mais nous sommes devant un phénomène de dénégation générale. Sauf peut-être pour ceux qui la subissent d'ailleurs, cette catastrophe. Les gens qui habitent un peu trop près des mers qui montent inexorablement, des phénomènes climatiques ingérables. Quelle drôle de situation, n'est-ce pas? Et qui pose, à mon sens, des questions spirituelles profondes. Comment est-il possible d'accorder si peu de crédit, si peu de confiance, à ce que l'on sait de sources sûres, avec tant de preuves accumulées? Ne devrions-nous pas parler d'un aveuglement généralisé? Ou pour reprendre l'image de l'évangile de Marc que nous venons de lire, nous pourrions parler d'une situation marquée par l'obscurité, l'impossibilité de voir clair, de discerner. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté. Nous y sommes donc. Aveuglement généralisé, c'est indéniable. Mais aussi, et je continue l'image de l'évangile de Marc, ébranlement. Ébranlement quand, en plus, les étoiles tombent des cieux, les puissances qui sont dans les cieux sont ébranlées. Ces choses qui nous paraissaient absolument les plus inébranlables, qu'elles déterminent notre calendrier, sont elles-mêmes fragilisées. C'est la structure même du monde qui vacille sur ses bases. Quand le soleil, la lune, les étoiles, le ciel, la terre, toutes choses qui, en principe, échappent à notre influence. Eh bien, aujourd'hui, la responsabilité de l'homme s'est étendue bien au-delà de ce que Marc pouvait imaginer en son temps, au point que l'avenir du ciel et de la terre sont entre nos mains. Dans son livre qui s'appelle La société du risque, un philosophe allemand qui s'appelle Ulrich Beck relevait que jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, l'ingéniosité, l'intelligence humaine était utilisée pour essayer de maîtriser la nature, de maîtriser le risque d'une existence soumise à la nature, hostile et dangereuse. Mais quand c'est l'ingéniosité humaine qui provoque le risque, qui génère elle-même le risque, alors notre perception du monde s'en trouve tourneboulée. Le sentiment de sécurité vient désormais de ce qui est naturel, là où était le risque avant, et désormais le danger vient de l'artificiel que fabrique l'humain. Le risque a changé de camp. Nous sommes les créateurs du risque. Hans Jonas prolonge cette réflexion dans son livre Le principe responsabilité Et il formule l'idée que l'éthique d'aujourd'hui, pour apprendre à bien se comporter, consiste justement à se sentir responsable des conséquences de nos actes pour le futur, pour les générations à venir qui n'existent pas encore et qui peut-être de notre fait n'existeront peut-être pas. Jamais. Notre devoir impérieux, dit-il, consiste à essayer de faire en sorte que l'avenir soit encore possible. Agis, et je cite Hans Jonas, agis de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d'une vie authentiquement humaine sur la Terre. Mais est-ce seulement encore possible ? Ce qui est clair ne l'est plus. Ce qui est solide ne l'est plus. Ce qui est stable ne l'est plus. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, dit Jésus. Nous y sommes, n'est-ce pas ? Le ciel et la terre qui structurent notre réalité sont en train de passer, de changer et même possiblement de disparaître. Et je me suis dit, peut-être que les bouddhistes ont raison, n'est-ce pas ? Quand ils affirment l'impermanence des choses. Vous savez, les choses qui ne sont, le réel n'existe pas vraiment puisqu'ils changent tout le temps, disent les bouddhistes. Et que la source de la souffrance vient de notre attachement à un réel en train de passer qui n'existe pas vraiment. Ce qui domine, c'est la fragilité et l'incertitude. L'impossibilité de prévoir l'avenir. Et ça, l'homme de la technique dont parlait Jacques Ellul, l'homme de la prospection, du calcul, l'homme qui aime bien regarder les sondages pour connaître l'avenir, n'aime pas ne pas être en capacité de prévoir, d'organiser et de dominer l'avenir. Nous y sommes donc. Et dans ce contexte bien réel que nous affrontons, aujourd'hui même, l'évangile de Marc nous annonce la venue du Fils de l'homme. Alors, dit-il, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec beaucoup de puissance et avec gloire. Homme de mauvaise foi que je suis, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Superman qui arrive des étoiles pour régler tous nos problèmes avec ses petits bras musclés. Quand j'étais gamin, Henri Salvatore chantait « Zorro est arrivé, sans se presser, le grand Zorro, le beau Zorro, avec son cheval et son grand chapeau ». Vous vous souvenez, non ? Je demande aux quelques cheveux blancs qui ont eu les mêmes souvenirs que les miens. Zorro est arrivé et il va nous arracher à la crise écologique, n'est-ce pas ? Il va résoudre pour nous les problèmes que nous avons nous-mêmes créés, provoqués. Il va prendre à notre place les décisions que nous avons été bien incapables de prendre par nous-mêmes. Et je me suis dit, allez, en lisant ce texte de l'évangile de Marc, tu t'es senti un peu soulagé, n'est-ce pas ? Zorro est arrivé, le Fils de l'homme va venir et il va débarquer avec puissance, avec gloire. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça cache d'idolâtrie, de fantasme derrière ce sentiment de soulagement que tu as pu ressentir en écoutant cette parole ? L'espoir d'y échapper ? Le rêve d'immortalité ? La peur de souffrir ? La crainte de l'abandon ? Ce n'est pas ce que dit l'Évangile. À aucun moment, Jésus essaye de nous faire croire que nous allons échapper à la catastrophe et que la souffrance sera épargnée aux élus. Je suis désolé, nous n'y échapperons pas. Non, ce qu'il annonce, c'est autre chose. Il annonce une proximité, une présence de Dieu au cœur même de la tempête. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez qu'il est proche, aux portes, à votre porte. Et on se souvient tous de ce texte de l'Apocalypse au chapitre 3, au verset 20, qui dit « Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui et lui avec moi. » Permettez-moi de souligner ici la force et la puissance de celui qui vient. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Je m'insurge contre cette théologie qui proclame désormais ce que l'on appelle, avec beaucoup de légèreté me semble-t-il, la faiblesse de Dieu. Un Dieu faible subirait comme nous le cours du destin en marche, la force de la destruction à l'œuvre, le scénario catastrophe qui se déplie sous nos yeux. Un Dieu faible viendrait juste pour pleurer à nos côtés sans pouvoir influer la course du temps. Fort heureusement, comme le dit l'apôtre Paul, et avec l'apôtre Paul, l'ensemble des Écritures, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je crois, moi, que la force de Dieu n'est pas celle des humains. Pour nous, êtres humains, quand nous pensons à la force, la puissance, nous pensons toujours à une violence, par cette capacité de contraindre, sans avoir besoin de récolter l'assentiment de ceux qui subissent cette force. Voilà ce que nous pensons quand nous pensons puissance, force. Ce n'est pas la puissance dont nous parle l'évangile de Marc et avec lui toute la Bible. Sa puissance à lui est d'une autre nature et d'une toute autre importance dans ce contexte que nous traversons. Elle ne fait de mal à personne, bien au contraire. Quand tout peut s'effondrer, la seule force véritable réside dans ce qui reste solide et stable. La seule vraie puissance consiste à demeurer, à être capable de demeurer fiable, par-delà les vicissitudes de l'histoire, à tenir sa parole quand on est entouré de mensonges, à dire vrai quand on est cerné par les fake news, quand tout est dévoré par le temps qui passe. Seul ce qui échappe au temps est digne de confiance, parce qu'il ne risque pas de disparaître à son tour. Tout ce qui semble vulnérable et ébranlé dans la structure même du monde, quand même ce qui nous paraît le plus stable, comme le ciel, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, quand tout ce qui constitue la structure de notre monde apparaît soudain comme périssable, fragile, vulnérable, en train de passer. Moi, je vous dis que la seule véritable puissance réside dans ce qui défie le temps. Dieu est fidèle. Voilà ce que nous dit toute la Bible à propos de la puissance de Dieu. Dieu est fidèle. Chers amis, je vous suggère d'apprendre par cœur le plus petit de tous les psaumes de la Bible, le psaume 117, qui tient 3 versets. Acclamez le Seigneur, vous toutes les nations. Chantez ses louanges, vous tous les peuples, car sa fidélité envers nous est puissance, et la loyauté du Seigneur est pour toujours. Alléluia. Oui, sa fidélité est puissance. Ou autre traduction, sa bonté pour nous est la plus forte. De tout mon être, je crois en la toute-puissance de Dieu. Mais elle n'est ni violence, ni contrainte, ni synonyme d'écrasement. Elle est force de la fidélité de celui qui tient parole quand tout s'effondre. Elle est ce qui ne passe pas, ce qui ne passera jamais. Elle est ce qui n'est pas susceptible de mourir, de s'effondrer, ni même de s'anonymiser avec le temps. Vous vous souvenez de la chanson de Léo Ferré ? Je suis très chanson ce matin. Henri Salvador, Léo Ferré, avec le temps va, tout s'en va. Tout s'en va peut-être, sûrement d'ailleurs. Mais pas la fidélité de Dieu. Tout simplement parce que Dieu est hors du temps, qu'il a lui-même créé, sa fidélité envers nous est puissance. Elle est ce qui reste fiable, solide, quand tout le reste s'effondre dans notre existence. Elle est ce qui redonne vie à Job et terrassé par le malheur. Elle est la traduction même de ce petit mot que l'on dit sans en percevoir la force et la puissance. Amen. Autrement dit, c'est vrai, c'est solide, ça tient la route. Quand vous direz Amen, pensez la fidélité de Dieu et sa puissance. La vérité, c'est que nous ne savons rien de ce qui va se passer dans l'avenir. Et il ne faudrait pas que cette confiance dans la fidélité de Dieu devienne pour les chrétiens un discours de surplomb et de puissance, vous savez. Jésus vient doucher toute velléité d'affirmer des choses que nous ignorons, et les chrétiens sont très forts pour annoncer des choses qu'ils ignorent. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel. Pas même le Fils. Mais le Père seul. Il nous faut donc apprendre à élaguer, à épurer, puis-je dire, le discours de l'Église pour la remettre sur le chemin de la foi et corriger la distorsion toujours possible de ceux qui croient savoir. L'enjeu consiste à donner des outils aux chrétiens que nous sommes pour annoncer l'Évangile dans une situation catastrophique inévitable, qui va provoquer beaucoup de souffrance. Qu'allons-nous dire ? Quelles paroles allons-nous être capables de dire ? Il ne s'agit pas de dire au monde « Moi, je sais, voilà ce qu'il faut faire pour échapper à la catastrophe. » Et c'est malheureusement, j'en suis bien désolé, ce que le synode national de notre Église vient de faire sur l'écologie, en faisant la leçon aux autres, au monde, aux politiques, aux grandes entreprises, aux financiers. Et je me suis dit, quel manque d'humilité, mais pour qui nous prenons-nous ? Pour qui on se prend pour faire la leçon aux autres ? Quelle erreur de rabaisser la parole de l'Église au vague rang de lobby moraliste. Voilà ce qu'il faut faire. De toute façon, on ne va pas le faire. On le sait ce qu'il faut faire, tout le monde le sait, depuis longtemps. La vérité, c'est que l'Église n'a aucun savoir concernant l'avenir. Elle n'est experte en rien. La seule chose qu'elle peut faire, c'est de parler en parabole et de parler de miracle au sens propre du terme, c'est-à-dire de témoigner de notre réalité telle qu'elle est, traversée par la présence de Dieu, de ce Dieu qui est fidèle. Quel que soit le côté sombre de l'avenir, la souffrance endurée, la difficulté traversée, Dieu vient, le Père sait, sa parole demeure. Ce qu'il dit est ferme, solide, puissant. Le temps crée de l'incertitude, de l'inconnu, de l'avenir, de la mort. Le Fils lui-même est soumis au temps, puisqu'il est né, puisque c'est l'incarnation même. Et il est donc susceptible de se tromper et de mourir sur une croix. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, le Père seul. Dieu le Père, lui, n'est pas dans le temps. Il ne lui est donc pas soumis, ni au temps, ni au devenir, ni à l'incertitude. Il sait, il demeure. Sa parole ne passera pas. Voilà pourquoi Jésus affirme « Mes paroles ne passeront pas ». Il y a là un renversement complet par rapport à ce qui nous est familier. Quand le monde entier affirme « Le réel reste et les paroles s'envolent », nous pouvons Nous ne pouvons que répondre humblement que nous croyons exactement l'inverse. Pour nous, la parole surpasse la force du réel. Quand tout s'effondre autour de nous ou en nous, seule la parole demeure solide, reste digne de confiance. Jésus nous propose donc une conversion, la parole de Dieu comme seule preuve de force et de stabilité à l'épreuve du temps. Ce qui est le plus solide est en fait ce qui nous semble le plus fragile. L'humain n'a pas le critère décisif de la solidité et de la permanence. Dieu seul sait. Parce qu'il apporte avec lui l'instant qui fait éternité et qu'il rassemble tout dans cet instant-là. Il enverra les anges pour rassembler ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel, c'est-à-dire l'ensemble du réel. Voilà ce qui est solide. Voilà ce que je crois. Amen.